la musique.
Caravanana maximum.
Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du
sale, 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 sale.
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive le soleil.
Vive les oreilles.
Libre.
We'll be right back.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4 en région parisienne et partout ailleurs dans le sud de la France. Radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, émission consacrée aux musiques singulières et autres formes de création curieuses. Et aujourd'hui, nous recevons la Novia. Alors, nous recevons plus précisément Perrine Bourrel, Jacques Puech, Guilhem Lacroux. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Et ben peut-être. Alors, on va dire ce qu'on vient d'écouter. C'était Jéricho, la Mantille. Donc, Jéricho, c'est.
Jacques.
Je
ne suis pas tout seul.
Bah alors, il y a qui alors avec toi ?
Donc avec moi, il y a Yann Gourdon à la vielle à roue et à la boîte à bourdon et au pied. Il tape des pieds aussi. Il y a Clément Gauthier qui est chanteur, joueur de chabrette et joueur de tambourin à cordes et Antoine Cognier au banjo.
D'accord. Bon, on reviendra sur ces instruments un petit peu inusités. Hein. Je crois que dans notre émission, on n'entend pas souvent de la vielle à roue par exemple. Mais avant tout, peut-être, d'habitude, on demande aux musiciens de se présenter, de dire leur parcours musical, pourquoi tout ça. Et là, ce serait peut-être plus pertinent, vu que vous êtes un collectif, de présenter les bases théoriques, s'il y en a, de la Novia.
On va laisser la parole à Guilhem, puisque c'est le pilier, le membre fondateur de la Novia.
Ah, d'accord. Ouais, un des membres fondateurs, en fait. Oui, alors... au départ, on jouait avec Yann et puis Pierre-Vincent. On avait monté un trio qui s'appelait Toad. Ouais. Après, une tentative de monter un ensemble qui était un peu plus important. Donc, on a monté un trio et on voulait de musique traditionnelle, plutôt d'Auvergne, sur un répertoire d'Auvergne. D'abord folk, puis après d'Auvergne. Et puis, on voulait jouer, on voulait que ça existe, on voulait rencontrer des gens. Et en 2009, on s'est dit qu'il fallait qu'on monte une structure, un collectif, et on a monté donc la Novia avec Elodie Ortega qui a développé le projet, qui travaille pour la Novia, et avec Basile et puis Jacques, et puis en fait très vite, sans vraiment qu'on s'en rende compte, ou en tout cas que moi je m'en rende compte, les choses se sont produites. On a rencontré plein de personnes formidables à qui on a monté assez vite des formations, des projets. Il y a une espèce de boulimie comme ça qui s'est emparée de nous. On a monté un certain nombre de projets dans cet ensemble, dans ce collectif qui nous permet à la fois de discuter, de nous rencontrer, d'échanger esthétiquement, notamment musicalement, et aussi d'une manière réflexive sur le fonctionnement qu'on peut avoir, comment faire vivre ces musiques-là et quels espaces elles ont, comment nous on fait, jusqu'où on fait évoluer cette tradition en perpétuel mouvement.
Donc, tu parles d'esthétique, bravo.
Ouais.
Bravo, mais il y a effectivement une esthétique. J'ai fait une bourde avant l'émission et Perrine m'a reprise puisque j'ai parlé de musique folklorique et ça n'a pas eu l'heure de te convenir. Est-ce que tu peux justement expliquer cette différence entre musique folklorique? Alors moi je dis ça, je sais pas trop ce que je veux dire quand je dis ça. Et tu m'as reprise en parlant de musique traditionnelle.
Et oui, parce que il y a vraiment une différence pour nous entre ces deux termes-là, parce qu'on confond folklorique, il y a un mélange avec musique folk, qui est là plutôt un terme anglais.
Ah, ouais.
Et folklorique, pour nous, c'est des groupes qui ont choisi de prendre un certain répertoire, donc de musique à danser,
ouais.
Mais qui veulent le jouer comme ils pensent que c'était joué avant. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'il faut le jouer de cette manière, habillé d'une certaine manière, avec des costumes qui correspondent,
ah oui,
soi-disant.
Ouais.
Et ça peut être le même répertoire qu'on joue, mais on ne se situe pas du tout là-dedans, nous.
Ah
on
oui.
joue ce répertoire parce qu'on aime ce répertoire, mais on ne pense pas qu'il faut le jouer comme avant, avec tel instrument. Justement, on ouvre... Là, y a Guilhem à côté de moi qui joue de la guitare électrique. Bien sûr qu'avant, il n'y en avait pas.
Mais si, mais il ne le savait pas.
Et voilà, c'est une grande différence parce que souvent, on a tendance à nous mettre dans le même panier et on se sent loin de cette esthétique, si on peut parler d'esthétique, ouais, un peu. Mais...
En fait, autour du folklore, ce que font le groupe folklorique, ils s'attachent en fait, à montrer sur scène un moment en fait historique, il s'arrête à un instant T et en disant ben voilà les gens à cette époque-là dansaient et jouaient et chantaient comme ça. C'est souvent empreint de fantasmes. Après, il y a des groupes aujourd'hui qui ont fait vraiment un travail historique et un travail de recherche. Il y en a beaucoup d'autres qui disent « Ah, oh, mais non, si c'était comme ça, on s'en souvient », alors que bon, c'est souvent réinventé. Aussi, c'est aussi réinventé. Voilà, nous, en fait, on se situe pas dans le tableau sur scène posé. En fait, nous, on fait du bal, mais c'est pour jouer, pour vivre un instant présent et pas un instant passé et fantasmé, quoi.
Je signale d'ailleurs, et je les salue, Yannick. Excellente émission sur Radio Libertaire, Folcalier, qui existe depuis des dizaines d'années, et qui, elle, s'intéresse aux musiques folkloriques. Alors, la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui, c'est faut aussi parler du Festival Crac. Vous êtes invité dans le cadre du Festival Crac, et je crois en coproduction,
Avec
Sonic Protest. Mmh. Donc, c'est pour la nuit de noces de la Novia, qui aura lieu donc,
demain soir. Samedi.
De 19h30 à 5h30 du matin, ça va être long.
Bon, on voulait faire plus long, mais il y a les messes, alors on a...
Ah bah oui, voilà, il y a la messe. Mais justement, ça, c'est une... Alors on reviendra sur tous les groupes, il y a 10 formations, je crois, demain. C'est écrit sur votre site.
Ah mince.
Et il y a un bal également, tu parlais de bal.
Oui, en fait, sur les formations de la Nob et de la musique, c'est inhérent à la musique qu'on a choisi de faire, notamment le côté musique traditionnelle, c'est qu'on fait beaucoup de musique à danser.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'il y a un gros répertoire de musique à danser dans ces musiques-là, et il y a aussi beaucoup de gens, en fait, aujourd'hui, qui dansent dans ce qu'on va appeler des baltrades. Voilà.
Ouais.
Et donc du coup, il y a aussi des groupes en fait qui font vraiment que de la musique à danser. Donc c'est aussi concertant, c'est-à-dire qu'on peut l'écouter de la même manière. Mais j'espère qu'il y aura des gens demain qui vont y aller, qui vont danser aussi, quoi.
Mais alors, ça va être une fête païenne dans cette église Saint-Merry là. C'est...
Ben oui.
Et oui.
Mais en fait, c'est pareil.
Ah ouais.
Ça va être la fête en tout cas.
Ça va être la fête. Oui, j'ai bien l'impression. Alors, je vais dire les groupes. Alors, Le Vert Double, Faune, Jéricho, La Baracande, Todd. Ou Toad, le duo Pioche-Gourdon, le duo Gourdon-Mochetan, la Cléda, Flux et les Violonneuses. Et, est-ce que vous pouvez parler de tous ces groupes-là, qui est dans quoi?
Oula, si on dit qui est dans quoi, ça va être
on va faire la moitié de l'émission.
Il y a des choses...
En fait, ce qu'on peut dire, c'est que sur le collectif, il y a 13 musiciens.
Ah, oui.
Il y a 13 musiciens, et en fait les musiciens, donc il y en a certains qui font partie que d'un seul groupe, et comme Perrine, plus pour longtemps, et après il y en a d'autres qui sillonnent et qui sont dans pas mal de groupes. On pense notamment à Yann Gourdon, on a déjà dit deux fois son nom, qui lui est dans la majorité des groupes.
Il va jouer toute la nuit demain, quoi.
C'est ça.
Ah oui, c'est ça.
À part quand il y a Violonneuse et Faune. Et Faune. Voilà.
Ah, c'est vrai.
Et en fait on est plusieurs à être dans plusieurs groupes comme ça. C'est ça aussi qui fait l'identité peut-être du collectif, c'est-à-dire c'est aussi un groupement de personnes qui montent des groupes ensemble et qui montent des répertoires différents et qui font vivre cette musique-là, quoi.
Et ensuite c'est vrai que il y a un spectre assez large entre des musiques qui sont vraiment des musiques expérimentales, on peut dire, jusqu'à des musiques, si on considère qu'on fait des tiroirs et qu'on fait des frontières, jusqu'à des musiques qui sont d'obédience vraiment traditionnelle. Voilà, bon. Entre de l'acoustique et de l'électrique, il y a une palette quand même qui est...
Oui, ça, c'est sûr. Jacques a en partie répondu à ma future question, ma prochaine question, qui était de savoir si, justement, le collectif, tu dis c'est 13 personnes, mais est-ce que c'est ça qui prime? Est-ce que c'est les 13 personnes, ou on peut imaginer que d'autres personnes rentrent dans le collectif? Ou alors, d'un autre côté, je pense à notamment Yann Gourdon, qui joue également dans le groupe France, et France ne fait pas partie du collectif La Novia.
Alors, ça, c'est une question... qui est complexe. C'est-à-dire que les gens de la Novia jouent aussi dans plein d'autres formations qui sont ailleurs. Mmh. Et il y a des gens qui, historiquement, pourraient aussi en faire partie et n'en font pas partie. C'est des questions, en fait, d'histoire et de structuration des choses comme elles sont... Enfin, moi, mon point de vue, comme elles se sont déroulées, en fait. Mmh. Au-delà des rencontres qui sont faites... Après, on est là pour l'instant, on s'est dit qu'il faut qu'on arrête de monter trop de monde et trop de projets et tout ça, parce qu'il y a un moment où ça devient très compliqué à gérer, puisque comme il y a 365 jours par an, si tu as 27 projets, et ben voilà, t'es pas disponible. Donc il y a ce truc là et après c'est des parois qui sont justement pas du tout étanches, elles sont complètement poreuses. L'année prochaine on va jouer une pièce de Terry Riley qui s'appelle INSEE. Et on va être la Nob plus Alexis de Grenier, qui fait a priori pas partie du collectif, mais qui va jouer avec nous. Enfin, je crois que ces choses-là, elles sont bon. Il y a des tiroirs, mais ces tiroirs-là, ça veut rien dire, quoi, en fait. Donc, je pense, ouais, voilà. Si quelqu'un peut dire mieux que ce que je viens de dire, je sais pas trop. C'est...
Ça me paraît très bien.
Et donc, toi, Perrine, tu joues dans un seul groupe, qui est les Violoneuses, qu'on va peut-être écouter maintenant.
Oui.
Donc tu peux nous en parler, c'est un duo.
Voilà, c'est un duo avec deux violoneuses. C'est-à-dire violoneuses, c'est le terme qui est très peu utilisé ou de manière péjorative justement pour dire en général, quand on regarde dans le dictionnaire, le violoneux c'est quelqu'un qui gratte son violon. Alors que pour moi c'est un terme très beau qui définit quelqu'un qui a un violon entre les mains et qui joue un répertoire autre que classique. La musique classique pour violon, et qui va jouer des musiques de tradition orale et qui va chercher un son propre, particulier. Voilà. Et on est vraiment là-dedans dans ce duo. On cherche, on joue ce répertoire, on s'appuie sur du répertoire traditionnel, mais après on laisse aller les choses. Il y a pas mal de.
Vous n'êtes pas violoniste donc ?
Non.
Pas du tout.
Je l'ai été, mais.
Ah mais c'est certainement quand tu faisais du folk.
Non, là quand je jouais de la musique classique, j'ai fait ça. Bon.
D'accord. Bon bah Laurent, est-ce qu'on peut écouter les violoneuses ?
C'est quoi le titre ? La marche.
Marche. Non, c'est après le vers double.
Marche bourrée.
Voilà, c'est ça.
Thank you.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. Vous écoutez l'émission Les Oreilles Libres avec la Novia aujourd'hui. Jacques Puech, Perrine Bourrel, Guilhem Lacroux. On vient d'écouter les violoneuses. Alors nous avions une discussion une discussion très musicale sur le do dièse qui a un ré ou je ne sais quoi. Est-ce que justement, moi je me posais la question, vous parliez d'instruments, notamment de trucs que je ne sais même pas ce que c'est, la cabrette.
Alors la cabrette, c'est une cornemuse en fait, ça fait partie de grande famille des cornemuses. Ouais. Voilà, c'est une cornemuse qui est née dans le milieu auvergnat à Paris. Ouais. Donc c'est cornemuse vraiment parisienne pour le coup, mais née quand même dans le milieu auvergnat et qui est redescendue du coup beaucoup en Auvergne et sur toute l'Aveyron, la Lozère, enfin toutes ces parties-là. Et c'est une cornemuse à souffler, c'est-à-dire qu'on ne souffle pas directement dedans, mais on a un procédé mécanique, un soufflet mécanique en fait, qui insuffle de l'air dans une poche et voilà, ce qui permet de jouer et de chanter en même temps, notamment. Ça n'a pas été fait pour ça, mais on le fait maintenant.
Et donc du coup, ça posait problème de tonalité, j'imagine. C'est ce que tu évoquais, je pense.
Tout à l'heure, on ne parlait pas tellement de ça, mais oui, remarque, je ne sais pas la cabrette, avec le violon, on peut jouer dans n'importe quelle tonalité, c'est juste ça change les doigtés, mais tout est possible. Oui.
Alors que sur la cabrette, tout n'est pas possible. D'accord, en fait, il faut changer d'instrument pour pouvoir changer de tonalité, de hauteur. Oui. Si on veut jouer plus ou moins grave, il faut changer d'instrument.
C'est comme l'harmonica, il me semble.
Exactement, c'est ça.
D'accord. Alors, la question. Alors, est-ce qu'il y a d'autres instruments comme ça, un peu rares, un peu qu'on ne connaît pas forcément?
Alors, un peu rare. En fait, on a quand même pas mal d'instruments dits traditionnels. C'est-à-dire que je dis bien dits traditionnels parce qu'ils ne sont pas forcément ancrés à un endroit précis comme ça. Mais il y a la cabrette dont on vient de parler. Il y a la chabrette qui est aussi un type de cornemuse, mais qui était plutôt implantée dans le Limousin.
Ouais.
Voilà, donc chez les voisins. Il y a la vielle à roue. Là qu'on retrouve quand même dans pas mal d'endroits quand même en France et même en Europe, mais qui était aussi très implanté aussi en Auvergne, qui a connu en gros un essor considérable là, sur les 20 dernières années avec un gros changement de lutherie aussi. Il y a le tambourin à cordes aussi, le tuntun, qui est vraiment c'est une caisse en bois avec des cordes tendues dessus. Donc ça, c'est plutôt un instrument du sud-ouest, Béarn, Gascogne, on va dire. C'est percussif en fait, c'est un instrument frappé en fait, c'est comme un tambourin avec des cordes. On a aussi deux autres types de cornemuses. Donc il faut savoir qu'en France il y a beaucoup de cornemuses. En fait, on ne le sait pas forcément, on a toujours l'idée de la cornemuse irlandaise ou écossaise. En France il y en a 25 différentes. Il y en a encore deux autres. Il y a la cornemuse béchonnée, la cornemuse du centre aussi dans le collectif. Voilà. Donc à chaque fois elles ont des particularités organologiques un peu différentes et elles ont des sons différents aussi forcément. Ouais. Et c'est très drôle de les marier d'ailleurs parce que ça donne des choses.
Alors la question que je me posais moi, est-ce que toi, Guilhem, tu joues de la guitare électrique, peut-être tu as des effets, des choses comme ça? Peut-être pas.
Non, assez peu, j'ai assez peu de pédales, en fait, je suis pas du tout un shoegaze. Par contre, j'ai des tournevis et des pinces crocodiles et du PQ.
Et ma question, c'était, est-ce qu'il est complètement exclu d'envisager, d'imaginer quelqu'un qui joue de l'électronique, par exemple, dans la Novia ou est-ce que vous êtes attaché à ces instruments traditionnels ou
c'est comme non, il n'y a pas de...
Il n'y a pas de dogme.
Non, il n'y a pas de dogme.
En fait, il n'y a pas de limite à partir du moment où la musique nous plaît. Par exemple,
moi, je joue du pédalier d'orgue. Donc, c'est vrai que là, c'est un instrument synthétique. Voilà, donc là, on atteint des limites d'enflux. Il y a des choses avec traitées, gérées par ordinateur. Pierre-Vincent, il joue sa cornemuse. Il l'a travaillé en direct, qu'il pilote par son ordinateur en direct. Donc là, les limites, elles sont poreuses une fois de plus. Il n'y a pas... Les frontières sont poreuses, pardon.
Alors, tu parlais de... Et je crois que même sur votre site, il est question de Haute-Loire, non?
Oui,
de Haute-Loire.
Est-ce que la Novia s'intéresse à une zone géographique précise ou...
C'est... Quand même, ouais.
En fait, la Novia est basée... En fait, le siège du collectif est basé au Puy-en-Velay, donc en Haute-Loire. Après, on est tous un peu dispatchés aux quatre coins de la France. Et après, sur le répertoire, effectivement, on est beaucoup à être un peu amoureux du répertoire du Massif Central, en fait. D'accord. Le répertoire de musique traditionnelle du Massif Central, qui a été collecté, enregistré, donc sauvegardé. On a des enregistrements qui datent, certains, de la fin du 19e. certains qui ont été écrits encore avant, au cours du 19e siècle, jusque dans les années 90-2000, en fait, on a encore des enregistrements de gens qui jouaient de tradition, c'est-à-dire qu'ils avaient appris la musique avec le voisin, ou alors tout seul parce qu'ils aimaient bien ça, et donc ils avaient acheté un violon, ou ils chantaient, ou ils avaient acheté une cornemuse et ils jouaient comme ça, quoi. Et donc on est beaucoup à s'intéresser à ces musiques-là, avec une enclave quand même, parce que le Massif Central s'est un peu agrandi avec les nouvelles régions, donc en fait on fait une enclave quand même sur tout le côté Hautes-Alpes, en fait, et notamment dans le Dauphiné, avec la musique de Rigaudon, et donc Perrine est la fière représentante dans le collectif.
Rigaudon, c'est quoi?
C'est quoi le Rigaudon?
Alors, Perrine, le Rigaudon, c'est un répertoire qui était joué dans les Hautes-Alpes. Ah ouais. Et c'est une danse. Donc, la bourrée, ouais. C'est une danse. Le Rigaudon, c'en est une autre, et c'est particulier à cette région. On ne le trouve pas ailleurs, ce répertoire.
Ah ouais, je jouais de la musique classique, de la guitare classique, et il y avait des morceaux qui s'appelaient Rigaudon.
Oui, ouais. Mais alors c'est pas la même histoire, oui. C'est comme les bourrées. Il y a aussi des bourrées dans le répertoire. Voilà, mais c'est pas la même. Ça a un peu rien à voir.
D'accord. Jacques, tu parlais de collectage. On en avait parlé avec Ernest Bergès de Sourdure. Quand on l'avait reçu il y a quelque temps, on avait parlé de la Novia d'ailleurs. Et est-ce que tu peux repréciser, est-ce que vous pouvez repréciser ce qu'est le collectage et alors lui, il y avait un truc assez précis quand même, il essayait de rechercher, il y avait un travail de recherche presque sociologique, on va dire, en recherche de vieilles personnes qui auraient connu des chants, des façons, des chants qui seraient transmis oralement de génération en génération. Est-ce que vous avez ce travail-là ou...
Alors c'est un travail qui a beaucoup été fait en tout cas en Auvergne, que je disais, au moins jusque dans les, enfin, encore maintenant, même si on trouve de moins en moins de monde en fait qui connaissent des chansons de Stacabila. Après en fait le collectage, ce que nous on appelle collectage, est aussi à relier avec l'anthropologie et l'ethnologie. Voilà, sauf qu'il s'attache à un domaine particulier qui est la musique et la danse, en fait, on va dire ça. Mais en fait c'est une entreprise ethnographique, donc en fait les gens ils sont partis dans les montagnes notamment. En Auvergne, et généralement c'était des jeunes avec des grandes barbes et des cheveux longs et des combis Volkswagen, quoi. Je caricature à mort, mais c'était quand même un peu ça. Et ils ont été voir des vieux, parce qu'on leur avait dit, ah, mais il y a le vieux là-bas, il jouait du violon avant. Alors c'est des gens qui avaient arrêté de jouer la plupart du temps. Toi, dans les années 80, ils avaient arrêté de jouer dans les années 30 parce que c'était plus du tout à la mode. On leur avait dit, papy, tu nous casses les pieds avec ton violon, là, donc arrête, quoi. Les gars, ils avaient arrêté, et 50 ans après, il y a des jeunes qui viennent leur dire, ah non, mais nous, on adore ce que vous faites, allez-y, rejouez, tout ça. Et donc, ils ont été les voir, ils ont appris à jouer avec eux, et ils les ont enregistrés. Et ce qu'on va appeler aujourd'hui le collectage, en fait, ce que nous, on appelle les bandes de collectage, en fait, ça va être ces enregistrements-là qui sont aujourd'hui numérisés et mis en ligne et mis à disposition
qu'on trouve sur le site de tout le monde, en fait. Du CNTRL, tous les portails. Les portaux, les portails internet des centres de musique traditionnelle en France, où il y a une mine d'or à aller écouter.
Alors, c'est quoi le fond d'histoire, quel intérêt finalement d'aller rechercher ces musiques et
je pense qu'on écoute deux choses. Il me semble qu'on écoute deux choses. On écoute le thème qui ou la mélodie ou les paroles qui sont chantées, voilà. Et on écoute aussi, je trouve énormément l'interprète, la façon de faire. Parfois, on tombe, amoureux d'un morceau largement autant par l'interprète que par le morceau lui-même. On se rend compte des personnalités qui sont fortes, qui passent à travers ça, des façons de faire, de glisser, de varier, de comparer une version et une autre. Enfin, c'est d'une richesse incroyable, même si les gens qui ont été enregistrés, souvent, effectivement, ils étaient âgés. Donc, c'est une partie, cette photographie-là, ce collectage-là, il donne déjà un parti pris, il y a un choix, mais on a quelques enregistrements aussi de gens qui étaient plus jeunes, qui chantent, enfin c'est incroyablement riche.
Oui, et puis moi je voulais rajouter pour le répertoire de Rigaudon, sans les collectages, on ne le connaîtrait pas, le Rigaudon. Ah oui, parce qu'on n'a pas, moi les gens avec qui j'ai appris, ils n'ont pas rencontré ces personnes, ils étaient déjà, enfin il y en avait très peu de toute façon, il y en avait 2-3 qui jouaient, qui ont recommencé à jouer, et la personne avec qui j'ai appris a appris à partir des enregistrements, donc en décortiquant. Voilà, donc c'est...
Est-ce qu'il y a alors la question qui va peut-être vous fâcher, je ne sais pas, j'espère pas, mais on est sur Radio Libertaire.
Fâchons-nous.
Non, la question c'est, est-ce qu'il y a un aspect politique dans ces histoires-là de collectage, de... Il se barre carrément.
En fait, ce qui est sûr, c'est que les gens qui ont été collectés dans les années 70-80, Il y avait aussi une volonté en fait de faire une autre musique que les musiques standardisées qui vraiment étaient hyper rabattues déjà à la radio, etc. Ouais. Et il y avait eu des pionniers, c'est-à-dire que en France on n'était pas les pionniers de ça, c'est-à-dire que c'est des gens qui avaient beaucoup écouté les folk singers américains notamment, les Pete Seeger, les Bob Dylan, tout ça, ils avaient beaucoup écouté. Et il y a eu un déclic à un moment donné, et notamment grâce à Pete Seeger justement. Qui avait fait une superbe lettre que je recommande, qui s'appelle « Ne vous laissez pas coca-coloniser » et qui avait expliqué que lui, il était super content, il allait partout dans le monde et tout le monde aimait ses chansons, mais il disait réveillez-vous, allez chez vous aussi, en fait, à côté de chez vous, il y a plein de super chanteurs et plein de gens qui portent aussi des choses, quoi. Et donc, du coup, les gens ont été, sont revenus. Ça correspond un peu au mouvement... post-68 art, quoi, clairement. Il y avait notamment cette volonté là en fait de changer d'univers aussi musical, quoi.
Ouais, bien sûr, quand tu parles des hippies et tout ça, c'est ça. Mais parce que je crois qu'avec Ernest on avait évoqué le fait aussi que plus au niveau des langues qui étaient des langages qui étaient utilisés dans ces musiques traditionnelles. Il y avait eu une volonté de l'État ou de je ne sais quoi de les empêcher de chanter dans leur langue ou
des choses. Oui, de toute façon c'était interdit de cracher et de parler occitan donc au début 20e, donc c'est clair, hein.
En fait il y a eu un phénomène qui est peu connu et peu dont on se vante peu en fait, mais il y a eu un phénomène de colonisation intérieure aussi en France, à savoir que on a voulu gommer les cultures locales pour faire la France, la fameuse France une et indivisible, qui permettait de repartir en guerre. C'était quand même c'était plus facile d'aller faire la guerre quand on était tous ensemble, tous français et tous unis derrière la même bannière, quoi, que quand les Bretons et les Basques en fait. Il n'y avait pas vraiment raison de se parler, quoi.
Ah non. Donc voilà. Pas tellement de rapport pour moi entre un Alsacien, un Basque, un Breton et un Corse. Si ce n'est qu'ils ont tous les ancêtres gaulois, comme dirait Sarkozyx.
On en est plein dedans, là. Ça, c'est sûr. Mais voilà, donc effectivement, il y a fin 19e, enfin tout le 19e quasiment, il y avait vraiment une volonté de créer. La France, quelque chose intellectuellement, de créer la France. Et donc, du coup, de gommer un peu tout ce qui pouvait être différent. On était déjà là-dedans, hein, d'ailleurs. C'était il y a un siècle et demi. On gommait en fait tout ce qui était différent pour faire un truc tout pareil. Et ça n'a pas été de la tarte pour tout le monde, en fait.
J'imagine.
C'est-à-dire que quand on dit interdit de cracher et de parler occitan dans la cour de l'école, c'était pas une boutade, en fait.
Ah, d'accord.
C'était vrai. Voilà, donc les enfants en fait apprenaient à parler français. Les enfants, moi mes grands-parents avaient leur langue maternelle c'est l'occitan, enfin c'est le patois. Et ils sont arrivés à l'école ils savaient pas parler français, mais on leur a appris à parler français de manière forte.
Du coup, est-ce qu'il y a une génération qui a oublié de parler occitan ou patois ou...
Ça dépend où en fait. Il y a eu des pertes plus ou moins grandes. Par exemple, à Pau, je crois que c'est 56% de locuteurs actifs, un truc comme ça. Mais si tu vas à Lyon, par exemple, il n'y a plus personne qui parle franco-provençal, quasiment.
Dans
les villes.
Dans mon coin aussi, hein, ça s'est perdu.
Et est-ce que vous participez d'un mouvement, justement, de reconquête, on va dire, je sais pas comment dire.
Alors moi, j'ai envie de dire justement, j'avais déjà envie de le dire tout à l'heure, pas du tout pour ma part. Et justement, c'est pas du tout une démarche politique pour moi là de jouer ces musiques. C'est vraiment une démarche. Enfin, c'est esthétique. C'est une musique très belle, très riche que j'adore jouer. Et c'est personnel. Je veux jouer ça. Point. Après, on peut dire il y a ces musiques. Il faut pas qu'elles disparaissent. Et tant mieux.
Non, mais l'esthétique, mais, c'est politique. C'est, hein,
d'abord.
L'esthétique, c'est politique.
C'est hyper égoïste. J'aime ça. Je sais pas pourquoi. Et j'ai envie de jouer ça.
Bon, on va écouter de la musique, du coup. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. On avait parlé de. De quoi ?
De faune.
Bah oui, puisque c'est vous deux, donc.
Exactement.
Alors, peut-être un petit mot sur le. Parce que vous êtes là tous les deux.
Bah, c'est un duo, c'est un groupe et on est deux. Donc, il y a le chanteur, il y a l'orchestre.
Et en fait, on fait que des chansons d'un super pays qui s'appelle le Cantal, qui est un super département. En fait, je suis originaire du Cantal, en fait, et donc ça me faisait rire de faire que des chansons du Cantal. Et en fait, c'est une mine d'or, ce coin-là, en fait. On a beaucoup, beaucoup de chansons, donc voilà.
Chaleur.
Donc c'est Guilhem Lacroux à la guitare électrique.
Guilhem Lacroux.
Guilhem,
oui. Guilhem. Excuse-moi, je suis...
Guilhem.
Guillaume.
Guillaume,
quoi. Guillaume, c'est ça.
Guilhem. Alors, à la guitare électrique. Et toi, Jacques Puech, tu joues
dans... Moi, je chante beaucoup dans ce groupe. Et après, on a tout plein de petits instruments. Il y a un shruti box, je fais aussi de la cabrette. Et j'ai un instrument qui s'appelle le glass harmonica. Et si vous voulez savoir ce que c'est, il faut venir demain soir. C'est le seul moyen.
Ah, bravo. Bravo. Donc, on écoute.
Qui veut entendre ?
Qui veut entendre une chanson, d'ailleurs ?
Ah oui, oui, oui. Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, l'émission Les Oreilles Libres. Et aujourd'hui, on parle de musique traditionnelle avec la Novia, Jacques Puech, Perrine Bourrel et Guillaume Lacrou dans nos studios. On vient d'écouter Faune. Non, oui, oui Faune. Oui. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous demander Ah oui, je voulais savoir. Alors donc, est-ce qu'on a dit ça d'ailleurs que c'était le festival Crac demain, enfin aujourd'hui d'ailleurs, qui commence oui. Qui commence,
vous commencé allez... hier, commencé hier.
Qui a commencé hier, carrément. Ouais. Et aujourd'hui, c'est...
Patterson.
Ouais, Lee Patterson et bah, le Lonsheim, Moncem qui joue la pièce de Jérôme Nottinger. Ouais. Donc ça, c'est ce soir. Et donc demain, de 19h30 à 5h30, c'est la Novia. Alors pourquoi Nuit de Noces ?
Alors la Nuit de Noces, en fait, il faut repartir à juste avant avec la Novia, la Novia.
Voilà. Ouais.
La nob, donc c'est un mot occitan, on en parlait juste avant des langues régionales, c'est un mot occitan qui signifie la jeune mariée.
Ouais.
C'est celle qui vient juste de se marier en fait, hein. Après c'est la jeune mariée.
D'accord.
Et donc la première fois qu'on a voulu faire un festival, enfin un festival en tout cas, une fête autour du collectif, parce que là ça va être la deuxième nuit de noces, bon, voilà, on a choisi d'appeler ça la nuit de noces parce qu'en fait voilà, il y a la jeune mariée, donc c'était la nuit de noces, le moment où on fait la fête quoi.
Ah oui, d'accord.
Donc,
la Novia, c'est la jeune mariée, d'accord.
Exactement.
D'accord. Et alors, est-ce qu'on a eu la réponse à la question ? Oui, je crois que je vous l'ai demandé en antenne, ça, dans quel ordre passeront les groupes ? Je sais déjà que c'est Perrine qui terminera avec les violoneuses, mais est-ce que, donc c'est l'ordre.
C'est l'ordre que tu as donné au
que
début.
Que j'ai donné, donc le Verdouble, Faune, Jéricho, la Baracande, Todd, duo Puech-Gourdon, duo Gourdon-Mauchamp, la Cléda, Flux et violoneuse. J'aurais voulu savoir. Alors, parce que sur la Novia, c'est également des disques. Hein. Je crois que vous réalisez des disques. Et quel rapport vous avez avec ça ? Et je pense notamment aux histoires de collectage et tout. Quand on fait un disque, ça veut dire on grave et voilà.
Ouais, c'est une photo, un disque. C'est une photo à un moment donné. Tu joues les morceaux, puis tu vas les enregistrer, puis tu les enregistres. Puis peut-être que 10 ans après, tu enregistres le même morceau, il a évolué, il est autrement.
Ouais.
Oui.
C'est la vie, quoi.
Mais est-ce qu'il y a dans cette démarche, par rapport à votre démarche plus générale, d'aller chercher des musiques du Cantal et de ces régions-là, est-ce qu'il y a une idée de les fixer, enfin comment dire, un truc de bibliothèque, je sais pas comment dire, merde.
Ah ouais.
D'archives.
Non. D'archives, voilà. Ah, merci.
Non,
je crois pas. En fait, on fait des disques parce que c'est aussi artistique en fait de faire un disque, et ça fait toujours travailler, ça fait toujours avancer aussi, et donc voilà, c'est vraiment la photographie à un moment d'un groupe en fait, dire bah voilà, à tel moment on faisait ça. Et c'est bien des fois de laisser en fait, enfin moi je sais que j'aime bien poser, faire un enregistrement, ça permet aussi de passer à d'autres choses et de continuer de continuer ce qu'on a déjà fait, mais voilà, et ça fait des photographies dans le temps comme ça.
Et puis ça permet de faire des disques, hein, ça nous permet
de les vendre
et puis de jouer aussi quoi, parce que tu vois, c'est là que ça se passe. Hein,
il y en aura demain des disques à vendre.
Oui. On fait aussi bien donc des disques, des CD, des vinyles et des cassettes même.
Vous faites des CD aussi, oui. Parce que oui, il y avait un retour au vinyle, je crois là.
Ça fait un moment qu'on fait les vinyles. Mais on le trouve aussi sur le site, sur le Bandcamp.
Alors c'est ça que je voulais. Alors qui a fait dans toutes ces formations là, j'imagine que toutes n'ont pas fait des disques ici.
Eh bien, presque, si, hein. Quasiment.
Pas loin.
Bravo.
Ouais, et plusieurs, des fois même.
On est aussi un peu boulimique du disque, à vrai dire, de l'enregistrement en tout cas. Ouais. C'est qu'on aime bien, je crois qu'on aime bien quand même tous enregistrer. Et après, on a des propositions aussi. C'est-à-dire que tout ne sort pas, tout n'est pas produit par la Nob. Et après, des fois, on a des propositions des gens qui nous disent ah, ben, on a un label, on aimerait bien faire un disque avec vous, tout ça. Donc, on se prête au jeu. Ouais. Quoi,
comme là, ce qu'on écoute, ce que tu passes, c'est disponible sur la Souterraine, la Mosla. C'est une compile qu'on a faite, qu'on trouve sur, je crois, Internet, à prix libre, un truc comme ça.
Oui, c'est ça.
Prix libre, ça veut dire de 0 à 1 million.
Ah ouais, moi j'ai payé 0.
Ouais, bah ouais.
Dommage, t'aurais pu mettre 1 million. Quoi.
j'ai fait un peu le ras là-dessus. Ouais. Je voulais savoir aussi, je fais pas encore trop bien la différence entre les formations.
Ouais,
on va dire dans certaines des formations de la Novia, il y a un côté de. Pour moi, c'est vraiment de la transe. Je m'apprête demain à vivre avec des longs morceaux de plus de 10 minutes, voire 20.
Oui.
Est-ce que ça vous parle, ça, la transe ou...
Bon, c'est un terme un peu exagéré, comme toujours, quoi, ce terme-là. Parce qu'on n'est pas dans une société où on a l'habitude, effectivement, de rentrer en transe. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais oui, on cherche l'ivresse, on cherche le décollement, c'est sûr. C'est sûr, à la fois par la durée, par l'intensité, par la répétition, par tous ces procédés-là. Après, ça dépend des formations. Il y en a qui visent très clairement plus ça. Voilà, on cherche le dérèglement, quoi, le zaisément. Je pense.
Ah, c'est joli ça, le dérèglement. Ça m'intéresse. Est-ce qu'on écoute quelque chose là ? Parce que je vois le temps passe et on n'a pas écouté tant de formations que ça. Moi, je vous proposais le duo Gourdon-Mauchamp. Je sais ce que ça vous dit.
Allez,
très bien.
Donc, c'est Scottish.
Exactement.
Qui signifie ?
C'est une danse.
C'est écossaise ?
C'est une danse.
Écossaise, non ?
À l'origine, non. Mais non.
Pas du tout.
C'est une danse.
Je sais pas d'où ça vient.
On pourra en parler des danses, mais en fait, ça vient des salons parisiens début 20e. Il y avait des Varsoviennes autant que des Scottish, ah, en fait, et c'était un peu le goût de l'exotisme.
D'accord.
Voilà. Toujours.
Voilà, c'était le duo Gourdon-Mauchamp, c'était Scottish. J'aimerais savoir, vous évoquiez ça également là, entre vous, hors antenne. J'ai pas pensé à vous demander, est-ce que vous composez en fait ? Ah, parce que c'est, j'imagine oui. qu'il n'y a pas que du collectage et des...
Eh ben si, non.
Je crois pas.
En fait, par exemple, là, ce qu'on vient d'écouter, il me semble, en tout cas, le premier, c'est un morceau de Stéphane Mauchamp. Le deuxième, je ne sais pas, mais j'imagine peut-être que oui,
ouais.
aussi. Dans Flux, il y a des compositions.
Ouais.
Voilà.
Et après, en fait, autour des musiques traditionnelles, effectivement, il y a toujours une part... il peut y avoir en tout cas une part d'interprétation et même de composition ouais. ou de recomposition en tout cas. Ouais. En fait, ce qui définit le mieux les musiques traditionnelles, c'est la variation. Oui. C'est, s'il y a un truc qui ne varie jamais dans les musiques traditionnelles, c'est justement le phénomène de variation. C'est-à-dire que ça change tout le temps et donc du coup, on recompose tout le temps. On peut quasiment être tout le temps en train de recomposer quelque chose. Quoi.
Vous avez du mal à utiliser... Alors peut-être, c'est normal. Utiliser le terme d'improvisation, est-ce que vous n'improvisez pas?
Bah, je sais pas ce que ça veut dire improviser, voilà. Moi je sais que dans le duo de violon, on fait jamais exactement la même chose en fait.
La variation, effectivement.
Voilà, et dans ce duo-là, je sais pas si on peut dire qu'on improvise, je crois pas.
C'est une question qui est compliquée quand même. Là, c'est hiver très complexe.
Je vais la rendre encore plus compliquée parce
super.
Que il y a quand même dans pas mal des musiques que la Novia produit. Il
ouais.
Y a cette idée de bourdon,
ben oui.
Qui est tout sauf une variation.
Ben alors, si on regarde le terme, oui. Mais si on l'écoute, en fait, il ne fait que varier le bourdon. Ben parce oui. que, justement, c'est intéressant, c'est la vibration qu'elle procure et comment elle est aussi comment le thème qui est joué rentre en résonance avec le bourdon. Donc l'un modifie l'autre. Donc si tu veux, c'est tout le temps en plus en train d'évoluer. Et puis on sait très bien que quelque chose même de répété de manière obstinée comme ça serait jamais exactement la même puisqu'elle est jouée par un être humain. Et en plus, la perception temporelle, elle, du fait du temps qui passe, fait que la perception change. Donc quand on a beau se baigner dans le même fleuve, c'est jamais le même fleuve.
Mmh.
Et bien c'est pareil avec le bourdon.
Mmh. Oh,
c'est beau ça. Hein.
Oui, voilà. C'était beau. Alors. Ah, rien que pour ça. Merci.
C'est pas à moi, j'ai plus un philosophe grec.
Ah bon,
qui a dit
bon.
Ça. Non, okay. Moi je fais que approprier.
Mais alors, après le bourdon.
Alors, ouais, l'improvisation. Mais pour revenir à ce que tu dis sur l'improvisation, et... en fait, moi il me semble que distinguer l'improvisation et la variation, c'est-à-dire que la variation, on s'appuie autour d'un motif thématique, mélodique,
ouais.
Qui consiste à le déployer. Après, l'improvisation, souvent, elle n'est pas structurelle, mais elle ne s'appuie pas forcément. En fait, il y a eu beaucoup de... Il y a toute une évolution, différentes façons d'improviser, en fait, qui peuvent être harmoniques, qu'on retrouve beaucoup dans le bebop, dans le jazz, ou elles peuvent être en termes de... sur un chemin mélodique, comme dans le New Orleans. Donc là, on parlera plus de variations, par exemple, dans ces traditions-là. Mais on peut trouver aussi l'improvisation dans une musique improvisée, ou la structure aussi improvisée. Alors, on retrouve ça dans certains groupes où les structures sont improvisées, en fait, ou plutôt les espaces... dans les structures peuvent être improvisées. Ouais. Donc il y a de la liberté là-dedans, il y a de la liberté à différents endroits, mais c'est comme si on avait, il me semble, comme ces idées de processus qui sous-tendraient ce qu'on fait. C'est-à-dire que l'improvisation libre, j'ai le sentiment qu'elle n'existe pas, en tout cas c'est pas quelque chose qu'on développe au sein de la Noble. Mmh. C'est-à-dire qu'on va à un endroit où on s'appuie autour d'un motif, où...
En fait, il y a des balises en fait dans ce qu'on fait. Il y a des balises, on a des points de repère.
Ouais.
Une trame.
Et en fait, après, voilà, il peut y avoir une trame qui est plus ou moins serrée. D'ailleurs, il y a des trucs des fois qui sont très fixés et très très calés, et des trames beaucoup plus lâches et qui laissent beaucoup plus de liberté à chaque musicien en fait à l'intérieur quoi. Et donc oui, peut-être que c'est une part d'improvisation. En tout cas, il y a toujours une trame en fait qui sous-tend ça quoi.
En fait, l'improvisation. Disons que je pense qu'il y a aussi une différence, c'est qu'il me semble que quand les improvisations existent. C'est toujours, on a toujours l'impression qu'on fait une improvisation qui est collective.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est pas la fonction de, il y en a un qui est porté par un ensemble et un qui fait une improvisation
oui,
dessus.
Il y a pas de soliste.
Il y a pas de, il y a pas, il y a vraiment une tradition de la musique psyché progressive aussi dans ce qu'on fait. Il y a vraiment ce truc de l'improvisation ensemble. Voilà, si on parle d'improvisation.
C'est pour ça que je parlais de trance, hein, ça voulait dire ça en fait un peu. Cette histoire de psyché, comme tu dis, c'est pas un mot que j'utilise, mais effectivement. Et j'avais une question, mais elle me sort de la tête, là.
On ne peut pas t'aider. Hein,
non, si. C'était par rapport à ça, mais... Oui, si, voilà. Par rapport à cette ambivalence, bipolarité, je ne sais pas comment dire, mais qu'on retrouve, alors clairement sur votre site, hein, musique traditionnelle, et expérimental. Donc j'aimerais bien savoir qu'est-ce que quel lien faites-vous entre ces deux termes en apparence.
Si on parle en propos vraiment musicaux, ce qui relie les deux dans les deux catégories, ce qui nous intéresse dans les deux, c'est peut-être cette présence du bourdon, en fait, la musique à bourdon, du son continu en tout cas, enfin des tons soutenus. Voilà, à chaque fois, c'est de la musique de tons soutenus qu'on va faire, et l'idée de la répétition et de la variation, du coup, dont on parlait tout à l'heure. Et ça, c'est des traits communs qu'on peut retrouver dans les deux, en fait. Sur les musiques traditionnelles qu'on peut faire, c'est enfin les musiques traditionnelles du Massif Central ou du Dauphiné, ce sont des musiques à bourdon. En fait, clairement, c'est clairement établi, c'est des mélodies qui prennent appui sur du bourdon. Et il y a toute une tradition aussi, si on peut parler de tradition dans la musique expérimentale, justement, de musique de ton soutenu, notamment avec des compositeurs américains, en fait, qui travaillent là-dessus. Et bah, voilà, nous, on est un peu entre les deux, parce qu'on aime les deux, et on trouve forcément le rapport entre les deux, quoi.
Et après, peut-être dans la façon de faire, on a tendance à expérimenter les choses pour voir si elles nous plaisent plutôt que de partir sur une idée. Et que ce qu'on met en jeu, c'est l'expérience qu'on fait de ça aussi, et qu'on a envie que les gens fassent aussi leur propre expérience en vivant la chose et le temps qui les emporte.
Alors, tu parlais de rock progressif, moi j'écoutais ça quand j'étais plus jeune. Et vous, qu'avez-vous écouté en dehors des musiques traditionnelles? J'imagine que quand vous étiez ado, machin.
Moi j'écoutais du blues rural, du rock and roll, de la musique contemporaine, électroacoustique, la chanson Cool and the Gang, tout quoi.
Moi j'écoutais de tout sauf ce que j'écoute maintenant, parce que je connaissais pas, le répertoire, les musiques traditionnelles, on va dire.
J'écoutais
vachement de rock aussi, de rock indépendant, musique classique à fond, tout ça, ça m'a influencé. Et par contre, la musique que je veux jouer, c'est cette musique que j'ai jamais écoutée. Et je redécouvre maintenant et c'est...
Ouais. Et toi, Jacques ?
Et alors moi, j'ai été baigné dans un univers de chansons, en fait, vraiment.
Ah, d'accord.
Pour le coup, très chansons françaises.
Sheila ?
Sheila, qui était du Cantal.
Ouais.
Mais non, pas trop Sheila, mais vraiment, plus sur Ferrat, Brassens, Brel, en fait, ce truc-là. Et ça m'est resté très longtemps. Plus se baigner aussi, mais involontairement, dans le milieu musette, en fait, milieu d'accordéon, tout ça.
Ah, d'accord.
Voilà.
Parce que moi, je me souviens qu'il y avait des groupes en marge du rock progressif, un petit peu stylé hispan, des trucs comme ça, qui étaient un peu, qui avaient une connotation un peu traditionnelle. Un petit peu folk.
Ouais. Je sais pas.
Non, ça vous a...
Moi, je connais pas.
Vous connaissez pas.
Mais j'ai pas de culture. Donc.
Eh bien, je vous propose d'écouter un peu de musique. Qu'est-ce que vous voulez écouter? Allez, parce que là, c'est nous qui avons choisi un peu, hein, quand même.
Ah ouais, non, mais faites ça très bien. Donc,
non. On va terminer par Toad. Ça, c'est sûr.
Voilà.
Ça, c'est sûr. Et alors maintenant, il y a plein de trucs qu'on a toujours pas écouté. Là, le Vert Double, la Barracande, la Cléda.
La Barracande, alors.
La Barracande, ça peut être bien.
Hein. Alors, comment ça s'appelle? Parce que pour Laurent, qui sache...
La Barracande, c'est Tout en me promenant.
Ah oui.
Julie, au lieu de s'arrêter. de pas à pas, ça possibilité. Comptez-vous galant sur cette plaine. Tu m'as fait tant courir, j'en ai grand peine. Présent, j'en peux plus, j'en perds la laine. Je lui ai dit, une charmante blonde, ici dedans ce bois. Sentir à ta folie.
Voilà, c'était
La Baracan.
La Baracan, bien sûr.
Évidemment.
Évidemment. Bon, alors, demain soir, la soirée de noces de la Novia, est-ce que nous voulons absolument tous les renseignements, votre site internet, vous, tout. Quoi, voilà. On veut tout savoir, c'est combien, c'est où?
Alors, ça se passe à Saint-Méry, 76 rue de la Verrerie, 75004, Paris.
Très c'est bien. 15 euros.
Voilà, et alors, le site internet du collectif, c'est www.la-du6novia.fr.
Voilà, très très excellent site hein, d'ailleurs, au demeurant, on peut écouter plein de trucs.
En fait, tous les disques qu'on fait avec la Nob sont en écoute. Alors, via le site, on peut aller sur le Bandcamp, on peut tout écouter gratuitement.
Il y a tout, la présentation de tous les groupes, quand on fait une émission de radio par exemple, on peut s'intéresser au groupe avant, avant de les recevoir, tout ça. Il y a des articles de presse, non, c'est vraiment... Vraiment très très bien. Et donc on a tout dit.
Les horaires pour voilà. Demain soir.
Bah oui.
Peut-être ça démarre à 8h. 19h30 ouverture des portes. Et ça finit à 5h30 du matin. Il y a des coussins. Après on peut dormir aussi sur place, volontiers.
Il y a un bar aussi dans l'église.
Bah oui. Mmh. Ah oui. Et oui, tout ça. Alors est-ce qu'il y a encore des places? Parce que je crois savoir qu'il y a quand même un peu de monde qui va venir.
Il y avait une prévente de places, mais certainement qu'il y en a encore parce que l'église est grande, donc on peut mettre du monde. Et donc voilà, vous pouvez acheter vos places en arrivant.
Ouais, c'est ça.
Alors je rappelle les groupes, l'ordre des groupes, Le Verdouble, Faune, Jéricho, La Baracande, Todd, qu'on va écouter en fin d'émission, Duo Puèche Gourdon, Duo Gourdon Mochant, La Cléda, Flux, et Violoneuse.
C'est ça. Bravo.
Bravo à vous.
Merci.
Merci à vous. Quelques annonces, puisque vous produisez dans le cadre du Festival Crac. Le Festival Crac a commencé hier. Alors d'habitude, on les reçoit, ça fait plusieurs années qu'on reçoit Églantine Boissieu, Frédéric Blondy qui organise le festival, l'association Babel. Puis cette année, on s'est dit, on va faire autrement, on va inviter leurs invités, à savoir La Novia.
La Novia.
Donc, ce soir, dans le cadre du festival Crac, à la même église Saint-Méry, L'Anseme, nouvelle composition de Jérôme Nottinger. Donc, L'Anseme est un ensemble d'improvisations, je crois qu'ils disent eux-mêmes, non idiomatiques. Mmh. Alors, je ne sais pas s'ils vont faire ça ce soir. Hein. C'est une composition, donc. A priori, c'est composé. Jérôme Nottinger, qu'on avait reçu il y a 2 semaines... pour l'Audible Festival, qui compose a priori de la musique électroacoustique, donc on verra ça. Et ce soir également, Lee Patterson, solo, dispositif électroacoustique. Ce soir également, c'est la dernière projection du film Niao Amtai, Magma, première tournée en Chine, suivie de questions-réponses avec la réalisatrice Coralie Van Richoten, qu'on avait reçue dans l'émission il y a quelques semaines. C'est au Cinéma La Clé, métro Sensier, Daubenton, 34 rue Daubenton, dans le 5e arrondissement. Film sur magma. Donc ça, c'est ce soir. Lundi 26 à 20h, Espace des Arts sans frontières. C'est 44 rue Bourret dans le 19e arrondissement de Paris. C'est 5€ l'entrée, 5€ pour voir Akko, Stereobuckscope. Akko que nous avons enregistré cette semaine et dont nous avons apprécié la patience et qui nous a fait l'honneur d'une émission et on l'entendra au mois de novembre. Alors avec Akko, il y aura... Alors donc là, c'est plutôt de la musique, c'est pas tellement des chansons qu'elle va faire. Stereobuckscope, c'est son projet plutôt bruitiste, on va dire, électronique. Alors également au programme Torbill, c'est un solo de guitare Noise Drone. Dodelsack, c'est du laptop et le X-Tet X ensemble featuring Akko. Ils vont jouer donc X-Tet X, sont les jeunes gens très sympathiques qui organisent cette soirée et qui vont jouer avec Akko, 44 rue Bourret dans le 19e arrondissement, lundi 26 à 20h et c'est 5€. On va parler du festival MIR, qu'on a invité aussi il y a 2 semaines, ou la semaine dernière, je ne sais plus. Il y a tellement de festivals en ce moment, il n'y a que ça. Donc c'est le mercredi 28 au centre FGO Barbara, qui se situe 1 rue Fleury, dans le 18e arrondissement de Paris. Donc mercredi 28 à 20h30, Gondang Music Boxing, Jean-François Pauvreau solo et Senyawa, le groupe indonésien. Le jeudi 29, toujours dans le cadre du Festival MIR, c'est à la Dynamo de Banlieue Bleue, c'est à 20h30, avec Ounz, Wintermass et Palimpsest. Et alors le même soir, c'est absolument pas dans le Festival MIR, mais un autre festival qui s'appelle Match et Fuse. Le même soir, donc, au centre FGO Barbara, le trio Snap, qu'on connaît bien ici, Julien Després, bien sûr. Yann Joussin, évidemment, à la batterie. Julien Després à la guitare. Et Clément Edouard au clavier. Snap, qui nous avait fait la gentillesse de venir pour les 10 ans de l'émission au festival Les Oreilles Libres, il y a deux ans maintenant. Et il y aura Strobes également, un groupe d'électro-mat-rock. C'est le 29 septembre. Et enfin, le lendemain, donc, on revient au Festival Mire, le 30 septembre, au Centre FGO Barbara, rue Fleury dans le 18e, à 20h30. Saïd, avec Mike Ladd, c'est plutôt du... Ouais, hein, comment tu dis ? Du hip-hop. Ah ouais, tiens. Ça fait
c'est,
bizarre.
C'est étonnant, ce...
Je sais pas si j'ai... Ouais, c'est... Voilà, du hip-hop. Hervé Sambre Quartet, alors ça, c'est pas trop du hip-hop non plus. Et Los Pistoleros del Infinito. Voilà, est-ce que tu as des trucs à rajouter, Laurent ? Non ? Bon. Bah, il est 55, donc je pense que dans quelques minutes, nous aurons nos amis de Dies Irae. Je ne les vois toujours pas venir, mais bon, on peut imaginer qu'ils seront là. Et bah, on va se quitter avec Toad. Alors Toad, c'est qui ? Dites tout, dites-nous tout.
Alors c'est Yann Gourdon, Pierre-Vincent Fortunier et moi-même. Voilà, et c'est de la musique d'Auvergne, évidemment.
C'est excellent. Bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup à vous trois.
Merci à toi.
Et puis, à demain. Oui, à demain, avec joie. Demain, ouais. Avec joie. Allez, salut. À la semaine prochaine, si, Laurent.
C'est quoi, les chaumillons, non ?
Ah oui. À la semaine prochaine, le générateur, si on arrive à retrouver l'enregistrement qu'on a fait, qui... Voilà. On verra bien. Si on arrive à le récupérer. Parce qu'il y en a quelques problèmes d'enregistrement, ces temps-ci, sur Radio Libertaire. Et voilà, on se quitte avec Toad.